Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, ça sera les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, président de la République en 1980, premier président de la République socialiste de la Ve République, si je dis pas de bêtises. Alors, ces 40 ans, pour moi, c'est un souvenir quand même. J'étais petit, mais je me souviens. Pour Antoine Beauviau, qui est en stage avec nous en Infocom à l'UT de Rodez, c'est carrément la préhistoire.
Ah oui, oui, oui.
Tu te souviens de quelque chose autour de lui ou pas?
Pas grand-chose.
Et non.
Pas grand-chose.
Et même quand il est mort en 96, 95.
Ah oui, j'étais pas là.
T'étais pas né. Ok, bah donc tu vas apprendre des choses avec nous dans cette émission aujourd'hui. Puisque nous recevons dans notre studio Pierre-Marie Terral. Bonjour Monsieur Terral.
Bonjour.
Pierre-Marie Terral, vous êtes professeur d'histoire à Rodez, hein, au lycée Montaigne, on peut le dire.
C'est ça, exactement.
Vous donnez aussi des cours d'histoire à Albi, puisque vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire. C'est le top niveau, on peut dire.
C'est ce qui rappelle en tout cas que historien, c'est aussi une profession, en tout cas un diplôme qui permet d'éviter de dire trop de bêtises, ou en tout cas, on peut en dire quand même, en tout cas, ouais. D'avoir certaines bases que n'ont pas tous les historiens télévisuels.
Ce seront reconnus. Pierre-Marie Terral, vous êtes avec nous puisque vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « François Mitterrand, un roman français » et sous-titré avec un bandeau rouge en dessous « Des allées du pouvoir au chemin de traverse ». À noter, et on va en parler d'ailleurs, que la préface de ce livre, Pierre-Marie Terral, est signée d'un autre président de la République, François Hollande, deuxième président socialiste d'ailleurs de la Ve.
Exactement. Donc la parenté semblait assez naturelle, mais dans sa préface, François Hollande souligne à la fois les ressemblances, les héritages, mais aussi les différences de caractère, évidemment les différences d'époque entre leurs deux passages au pouvoir, l'un ayant été évidemment beaucoup plus court, 5 ans, que le premier, 14 ans.
Ouais. Et puis alors c'est vrai qu'Hollande il se présentait comme un président normal, François Mitterrand, normal. Ça colle pas forcément.
Voilà. Alors, c'est vrai que pour moi, c'était pas non plus un préfacier normal, François
ouais,
Hollande.
Ouais, c'est
c'était
sûr.
Assez inespéré.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Mais le personnage est assez simple d'accès. En tout cas, c'est l'image qu'il a. On n'imagine pas trop un Français aller taper sur l'épaule de François Mitterrand. Il y a une anecdote là-dessus. Lorsqu'un ancien prisonnier des camps en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale allait voir François Mitterrand en lui disant « Nous étions prisonniers dans le même stalag, nous pouvons nous tutoyer », François Mitterrand lui répondait « Si vous voulez ».
Ouais. D'ailleurs, oui, juste un mot sur cette préface de François Hollande. Là, des livres autour de Mitterrand pour les 40 ans de son élection, je sais pas, il doit y en avoir une bibliothèque entière, plusieurs. François Hollande, comment vous avez réussi à l'intéresser à votre livre, à lui donner envie d'écrire lui-même?
Alors, François Hollande, j'avais pu observer, pu écouter certaines de ses déclarations durant les derniers mois. Et grâce à l'un de vos confrères journalistes, j'ai pu obtenir ses coordonnées. Et donc, je me suis permis de le contacter. Il a répondu très vite, en quelques minutes, je dirais. Puis, malgré son emploi du temps qui reste chargé, puisqu'un un ancien chef de l'État a quand même des obligations, eh bien, il a rendu sa copie dans les délais, au grand soulagement de l'éditeur et de l'imprimeur.
Tiens,
et de l'auteur, pardon.
L'éditeur, tiens, on va en parler. François Mitterrand, un roman français. C'est chez Mareuil Édition. Il y a 358 pages, je le dis, et ça coûte 28 euros.
21 euros.
Ça coûte 21 euros. Et le livre, bon, on peut le trouver sur les grandes plateformes, évidemment, mais aussi à la Maison du Livre de Rodez, par exemple.
À la Maison du Livre de Rodez et dans toutes les bonnes librairies aveyronnaises.
Très bien. Pierre-Marie Terral, ce n'est pas votre premier ouvrage, on aura peut-être l'occasion de parler des autres. Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi vous avez une passion pour François Mitterrand, à la base?
Alors, je dirais que je ne fais pas tout à fait partie de la génération Mitterrand, puisque je suis né en 1979, mais je pourrais y être associé. Mais je ne fais pas non plus partie de la vénération Mitterrand, c'est-à-dire que c'est pas un livre nostalgique sur François Mitterrand. Alors, comme chacun, je peux avoir quelques souvenirs. J'ai souvenir, par exemple, de la visite de François Mitterrand en 1987 à Millau, où j'étais vraiment tout petit. J'avoue que j'avais été fasciné par, j'allais dire, le décorum, voir le déploiement de forces de l'ordre, etc. Quand on grandit en province, on voit ça une fois dans son enfance. Mm-hmm. Premier souvenir. Ensuite, deuxième souvenir, à la minute de silence dans toute la France au moment
de son décès
en 1996.
Ouais, en mois de janvier, moi j'étais à l'armée.
Moi, j'étais lycéen. On sentait que c'était la fin de quelque chose, un nouveau moment, une nouvelle ère qui commençait. Et ensuite, au fil du temps, j'ai commencé à collectionner en quelque sorte les livres de président, les livres plus largement de politique, de sciences politiques. Et un jour, dans une braderie du nom d'Emmaüs, j'ai trouvé un livre de François Mitterrand et je me suis aperçu. Je veux dire avec émotion, hein, puisque c'est un livre qui coûtait 5 francs, je crois, qu'il était dédicacé par François Mitterrand.
Ah, d'accord.
Et quand j'ai trouvé cette dédicace, je commençais à m'imaginer où et quand il aurait pu le signer, puisque c'était quelqu'un qui faisait des déplacements incessants. Mmh. Il se trouve que quelques années plus tard, dans un lieu qui pourrait s'apparenter à un parc d'attractions avec mes enfants, j'ai croisé Mazarine Pinjot. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on aurait pu voir son père ici? Et la réponse étant évidemment non, ça aurait été incongru. Mais cette réflexion sur les lieux de François Mitterrand, ça faisait un moment que je la menais. Et puis lorsque les lettres à Anne, les lettres à Anne Pinjot sont parues chez Gallimard, c'est-à-dire sa correspondance privée, je me suis aperçu vraiment que c'était certainement la bonne voie d'explorer les lieux qui avaient fait l'homme qu'il avait été, l'homme privé, l'homme public et surtout l'homme d'État.
Ouais, alors parce que vous êtes professeur d'histoire Pierre-Marie Terral, mais là c'est plutôt un cours de géographie dans ce livre François Mitterrand, un roman français.
Je dirais que c'est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire histoire, géographie et peut-être par endroits aussi sciences politiques, mais le tout, j'espère, sans jargonnage et bien que ce soit un livre d'histoire, le lire justement, ou plutôt en tout cas l'écrire comme une histoire, c'est-à-dire ne pas amener le lecteur vers des contrées trop éloignées ou trop complexes et essayer de raconter ça à la façon d'une histoire, une histoire de vie.
Antoine, une question à Pierre-Marie Terral.
Oui, je voulais revenir sur le fait que vous avez eu l'occasion de rencontrer François Mitterrand à Millau. Quels souvenirs vous en gardez en tant qu'enfant ?
En tant qu'enfant, 1987, c'était une atmosphère de liesse qui accompagnait sa venue, d'autant qu'il venait accompagner, il venait inaugurer l'hôpital de Millau, donc c'était important, un tel équipement pour la ville. Mmh. Alors enfin, je ne percevais pas cela, mais c'était la première fois que je voyais autant de monde dans ma ville, d'autant qu'on avait vu l'hélicoptère de François Mitterrand se poser, qui avait fait une étape vers la ferme d'un des paysans du Larzac, puisqu'il avait développé, il avait tissé une amitié même privé avec les paysans du Larzac. Donc tout ça, on en avait connaissance déjà à l'époque. Et puis voilà, on a 8 ou 9 ans, François Mitterrand, c'est le monsieur de la télévision, c'est le président. Et je dirais que le respect pour la fonction présidentielle il y a 30 ans de cela était probablement différent, était probablement plus important qu'aujourd'hui, que cela vienne des personnes ou que cela vienne de l'époque où on remet plus facilement en cause ces fonctions-là et peut-être à juste titre.
Oui, cette amitié-là, du coup, ça a permis en 80 l'abandon d'un projet au début de son premier mandat, c'est ça ?
Exactement. Au terme de 10 ans de lutte, les paysans du Larzac, que rien ne conduisait à la gauche, c'était des gens très conservateurs, très croyants, eh bien, pendant 10 ans, ils ont mené une série d'actions locales, mais ils ont pu venir ici à Rodez avec leur tracteur. 80 km en tracteur, c'était juste impensable en 1972. Ils sont allés jusqu'à Paris en tracteur, ils sont allés à Paris à pied, ils ont campé sous la Tour Eiffel. Donc des actions qui ont permis de durer 10 ans. Et en 1981, enfin, François Mitterrand leur accorde cette victoire pour des raisons symboliques. Le Larzac est devenu un symbole pour des raisons aussi politiques, peut-être pour quelques raisons aussi esthétiques, parce qu'il aimait beaucoup ce paysage-là. Et lorsque François Mitterrand revient à Rodez en 1982, les officiels, le cortège de sécurité l'amène vers la tribune où il doit parler, lui, les écarte, il se dirige vers les paysans du Larzac qui ont une banderole Mitterrand merci, et il va les voir en leur disant à demi-voix, nous devons une victoire réciproque. Donc c'est aussi ce genre d'anecdote qui m'intéresse.
Belle anecdote.
Des anecdotes donc que l'on retrouve tout au long de ces 358 pages de ce livre, François Mitterrand, un roman français, signé Pierre-Marie Terral. Alors les lieux, puisqu'on se promène avec vous sur les pas de François
on se déconfine.
Mitterrand. Ouais, ça fait du bien d'ailleurs, parce que on sort très largement des 10 km autorisés en ce moment. Bref, bon, François Mitterrand, moi vite fait, alors on va pas faire tous les lieux, mais moi vite fait, François Mitterrand, de mémoire, hein, je me souviens de quoi ? Je me souviens du lieu où il grimpait tous les ans je ne sais quelle colline.
Roche de Solutré, oui.
Voilà. Je me souviens rapidement aussi de la ville, je sais plus s'il est natif de là, mais le soir de son élection, il était j'étais montré à la fenêtre, c'était pas un palais royal, c'était une petite maison.
Un château Chinon, dans la Nièvre, oui.
Voilà, très bien. Et sinon, alors je l'associe à lui, mais c'est pas forcément un lieu qu'il a visité. Pour moi, François Mitterrand, c'est aussi la grande pyramide du Louvre.
Exactement. Je vois que vous avez bien reconstitué
ouais,
le puzzle.
C'est faible, hein. c'est faible. Hein.
Effectivement, rapidement, l'itinéraire de François Mitterrand, naissance en Charente, à Jarnac, dans une famille... On travaille le vinaigre, ce qui est moins bien que le cognac, c'est moins prestigieux,
oui,
c'est la petite bourgeoisie,
c'est
ça sent un peu moins bon, les effluves de vinaigre.
Ouais.
Donc, idée un peu de revanche sur la bourgeoisie du cognac aussi. C'est ensuite Paris, comme jeune étudiant, croyant, conservateur, voire très à droite. C'est ensuite le choc de la guerre, où il va passer par Vichy, mais il va aussi, à partir de 1943, sillonner la France dans un réseau clandestin de résistants. Et là, il découvre vraiment tout le pays à vitesse grand V, et ça, c'est une période fondatrice, d'autant que c'est à cette époque-là qu'il découvre son aura véritablement sur les autres hommes. Mm-hmm. J'ai oublié de parler du camp de prisonniers en Allemagne, mais là, je sors de la France, mais ça a été aussi un épisode fondateur. Et ensuite, après-guerre, il a commencé à avoir des responsabilités militaires ministériel assez jeune, il devient à ce moment-là député de la Nièvre, donc il s'ancre dans la Nièvre à Château-Chinon, dont il deviendra maire. Il y a dans cette région de la Bourgogne effectivement l'ascension de la roche de Solutré, qui est un ancien lieu de résistance, mais qui devient un rituel mitterrandien, où il faut être, si l'on est du premier cercle, de la cour, je dirais. Il y a aussi Latch ou Latché dans les Landes, et d'autres lieux comme ceci, d'autres étant moins connus volontairement. Comme,
alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme lieu que vous, on peut découvrir grâce à vous ?
Il y a par exemple Gordes, hein, le petit village perché du Luberon, où il a fait construire une maison avec sa deuxième famille, on va dire.
D'accord.
Et je revenais aussi sur des lieux plus symboliques, comme l'Observatoire, ce lieu parisien où en 1959 il est victime d'un vrai faux attentat.
Un vrai faux attentat, on n'a jamais vu, vous voilà. Savez où on sait,
alors,
sait toujours pas.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été mis au courant. Il a pris ça comme un service qu'on lui rendait,
ouais.
En ne dénonçant pas la tentative d'attentat qui allait être faite contre lui. En fait, c'était tout simplement un piège destiné à le ridiculiser, et il est tombé en plein dedans. Et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, déjà humainement, mm-hmm. puisque certains de ses amis craignaient qu'il se suicide. Beaucoup de mal à s'en remettre politiquement. Mm-hmm. Il a fallu quelques années, en effet, pour qu'il se remette sur son cheval et qu'il reparte au combat.
C'était quelle année, ça, l'attentat de l'Observatoire ?
1959.
D'accord. Ouais, parce que Mitterrand, alors on l'associe à des moments glorieux, d'honneur, voilà. Mais François Mitterrand, il y a aussi une part un peu plus sombre, en tout cas qui a été discutée, qui a fait débat. Vous avez parlé de son passé de résistant. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on évoque aussi ses amitiés avec des personnages, notamment René Bousquet, hein, qui lui était tout sauf un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une part. Et puis 1959, c'est aussi la guerre d'Algérie en France. Et il avait des fonctions, alors il était peut-être, je ne sais pas, ministère de l'Intérieur, mais enfin, il avait un ministère qui avait à voir avec l'Algérie. Et pareil, c'était pas, enfin, avec 60 ans de recul, c'était pas bien net, ça non plus.
Alors, il y a eu des épisodes peu reluisants, hein. C'est pour ça que ce travail sur cette étude sur les lieux, c'est ce que j'appelais les lieux noirs de François Mitterrand, mmh. et Vichy en est un, hein, où d'après lui, d'après son itinéraire officiel, il y a passé très peu de temps, et si on regarde de plus près, il y restait quand même un peu plus longtemps que ce qu'il avait pu dire, mmh. y compris en étant décoré de la Francisque, admirant beaucoup le maréchal Pétain, et au début de l'année 1943, commençant à faire des rencontres importantes avec les résistants autour de l'idée de porter assistance aux prisonniers de guerre dont il avait été en Allemagne.
Mmh.
Mais c'est vrai que c'est une époque troublée, que son itinéraire est lui-même troublé. D'ailleurs, de grands historiens ont forgé le concept de vichisto-résistant, c'est-à-dire que des gens ont été l'un et l'autre.
Mmh.
Alors on sait aussi qu'il y a eu des résistants qui l'ont été à l'été 1944.
Ah bah,
pour François Mitterrand,
c'était la majorité. Hein. C'est vrai.
Pour François Mitterrand, ça a été plus tôt,
ouais.
Mais le passage de Vichy ne doit pas être nié. Et pour revenir à votre remarque très juste, l'amitié avec René Bousquet, il l'a affirmé lui-même jusqu'à une certaine époque. Et lui, il a justifié en disant, justifié alors qu'elle était évidemment injustifiable, en disant qu'il savait et que son réseau savait ce qu'il lui devait, c'est-à-dire que semble-t-il, lorsque François Mitterrand était à Alger, dans la France libre, une information venant de Bousquet, qui devait lui aussi ménager la chèvre et le chou parce qu'il ne savait pas quelle serait l'issue de la guerre, lui aurait permis au réseau de François Mitterrand d'éviter d'être arrêté. Et donc, il lui aurait gardé une certaine gratitude, sans oublier que l'homme étant devenu assez fortuné, pour quelqu'un qui menait souvent campagne, ça pouvait être un appui assez important. Donc, je ne pense pas avoir fait preuve de trop de naïveté, ni trop de flagornerie vis-à-vis de François Mitterrand. Et voilà, ça ne serait pas juste et ça ne serait pas crédible de passer sous silence de tels actes ou de tels lieux. Y compris là où je me suis amusé, c'est de montrer que lorsqu'il allait dans l'Allier, il y allait souvent parce qu'il y avait des amis, eh bien, les périples dans l'Allier avaient aussi pour but d'éviter à tout prix de passer par la ville de Vichy, donc à la contourner.
C'est la construction de votre livre tout au long des 358 pages. Bon, il y a des chapitres, il y a d'ailleurs quelques illustrations, photos, documents, mais c'est une construction chronologique ou comment ça fonctionne ?
Alors, c'est une construction chronologique, mais c'est aussi une construction par les lieux successifs qu'il a fréquentés, en partant de la terre mère, je dirais, des Charentes, où sa famille a beaucoup compté, et où quelque part il est toujours resté l'enfant charentais qu'il était à ce moment-là, y compris jusqu'à son bureau à l'Élysée. Il y avait toujours des photos des Charentes ou de la Dordogne où ses grands-parents avaient une propriété. Donc ça, ce sont vraiment des années matricielles, comme pour tout homme ou pour toute femme, mais pour François Mitterrand, il était dans cette nostalgie-là de l'enfance, de l'époque où ses parents, et en particulier sa mère et ses grands-parents également, étaient vivants. Donc passage par les lieux fondateurs, mais aussi Paris, avec lequel il entretient un rapport complexe, c'est-à-dire fou amoureux de cette ville, de ses bouquinistes, de ses libraires, mais en même temps soucieux de se donner une image de provincial, en Charente ou que ce soit, en annonçant ses résultats électoraux à Château-Chinon depuis une fenêtre de l'hôtel du Vieux-Morvan. Donc quand on pense Mitterrand, on se rappelle aussi de ses différents ancrages en province qui étaient à la fois sincères, parce que quand on lit ses écrits, on voit que il s'y plaisait beaucoup, que c'était pour lui un délassement, mais qui était évidemment un très fin calcul politique pour se donner une image de Français ancré dans son pays, dans ce qu'il appelait la France éternelle.
Antoine, une question à Pierre-Marie Terral.
On a parlé des autres épisodes, des épisodes en général de la vie politique de François Mitterrand. Moi, c'est vrai qu'en tant que jeune, ce qui m'a marqué, on nous en a parlé dans les livres d'histoire, c'est cette relation aussi François Mitterrand-Jacques Chirac. On sait pas vraiment, quand on est jeune, si elle était si difficile qu'on nous l'a décrite. Moi, j'ai le souvenir, j'ai vu des vidéos de ce débat d'entre-deux-tours, par exemple, avec cette anecdote marrante, mais vous avez raison, monsieur le Premier ministre, je crois.
Tout à fait. Alors, les deux hommes... effectivement, son rivaux, hein, même si c'est un peu plus compliqué que cela, puisqu'en 1981, Chirac, son principal rival, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et on a la preuve aujourd'hui qu'il a fait voter Mitterrand. 1988, Chirac ayant été Premier ministre de cohabitation pendant 2 ans, eh bien, Mitterrand, comme vous l'avez dit, use de toute sa splendeur présidentielle pour rabaisser son Premier ministre. En 1995, les choses changent, et la transition se fait assez bien lorsque Jacques Chirac est élu, parce que Mitterrand avait beaucoup misé sur Balladur lorsque Balladur est devenu Premier ministre. Rapidement, les allures de monarque, or il ne peut y avoir qu'un seul monarque pour François Mitterrand, et l'idée que lorsque François Mitterrand est hospitalisé pour son cancer, que Balladur à ce moment-là aurait un peu marché sur ses plates-bandes, vont fâcher François Mitterrand, qui va se détourner totalement de Balladur et remiser sur Jacques Chirac. Et donc il y a des images qui sont assez terribles de 1995, élection de Jacques Chirac, où l'on a le président sortant, François Mitterrand, qui parle avec le président élu Jacques Chirac, et à côté d'eux, il y a le Premier ministre en fin de parcours, Édouard Balladur, avec qui aucun des deux n'accorde un seul regard ou une seule parole. Donc c'est la vengeance des deux hommes. Et donc ils ont trouvé une certaine connivence. Et Jacques Chirac aura d'ailleurs, en janvier 1996, des mots très louangeurs, en tout cas des mots très humains à l'égard de François Mitterrand. Ils se sont reconnus comme des hommes un peu de la même trempe, en tout cas dans leur amour de la France et dans leur rapport aux Français, même si François Mitterrand était beaucoup moins convivial et beaucoup moins affable probablement vis-à-vis des Français que Jacques Chirac. Il y avait en tout cas cette connaissance du moindre village et de la France des profondeurs. On aurait pu parler de Jacques Chirac qui venait ici dans notre département de l'Aveyron à la foire de l'Essac ou qui avait ses adresses dans les restaurants. Voilà, ce sont des... Mais là, il faut bien voir que ce sont des personnalités dans les deux cas qui ont sillonné la France pendant des décennies avec le but ultime d'accéder à l'Élysée. Et pour mener une telle vie, eh bien, il faut, dans la grisaille des réunions politiques, il faut s'accorder quelques coins de ciel bleu, et ça peut être des visites ou de la gastronomie, et les deux en ce domaine étaient plutôt bons, même si Jacques Chirac est mieux connu pour
ça,
cela.
Sa tête de veau. Vous avez évoqué, on arrive bientôt au terme de cet entretien, déjà Pierre-Marie Terral, auteur de François Mitterrand, un roman français, aux éditions Mareuil édition, 358 pages, 21 euros, dispo à la Maison du Livre de Rodez et dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Hein. Je reviens donc sur ces lieux, on parcourt grâce à vous sur les pas de François Mitterrand. Bon, pour l'Aveyron, vous avez évoqué Millau, mais il est venu sinon à part ça, ou c'était sa seule visite en Aveyron?
Il est venu à plusieurs reprises, déjà parce qu'il avait des amis politiques en Aveyron, qui sont hélas aujourd'hui décédés, Gérard de Ruy, ancien maire de Millau, Jean-Paul Salvan, ancien conseiller municipal de Rodez. Il a aussi participé au lancement politique en quelque sorte de Bertrand Delanoë, qui était ruthénois à cette époque-là, dans les années 1970. Oui. Il était très ami avec, et ça je le raconte aussi, avec Fernand Pouillon, l'architecte qui a racheté le château de Belcastel, à qui il a fait réaliser des globes sur le modèle de ceux qu'avaient les monarques. Mmh. Et c'est ce qui explique que sur ce globe de Coronelli de François Mitterrand, où il y a Paris, Lacé, Jarnac, etc., de la même taille que certaines grandes villes, on trouve aussi Rodez et Belcastel.
Donc c'est assez... Il est où ce globe là actuellement?
Alors il y en a plusieurs, il y en a un notamment que l'on peut voir aujourd'hui au musée de sa ville natale à Jarnac. Il y en avait un pendant quelques mois lors d'une exposition au château de Belcastel, justement sur Fernand Pouillon. Donc il y en a quelques exemplaires en circulation. Et sur l'Aveyron, effectivement, le Larzac, ça reste aussi un haut lieu de la rencontre de François Mitterrand qui s'est intéressé à ce qui s'y passait pendant 10 ans et même après.
Alors tiens, Larzac, c'est la deuxième fois que vous évoquez le lieu dans cette émission, puisque Pierre-Marie Terral, bon, votre dernier ouvrage, c'est François Mitterrand, un roman français. Mais auparavant, vous en avez signé plusieurs, dont un sur le Larzac, cette période-là, autour de cette période-là. Vous avez aussi écrit il y a une dizaine d'années autour de la Bosch, à Rodez, pas la Bosch, l'entreprise allemande, voilà. C'était quoi, là, l'histoire?
Alors,
il y a 10 ans, tout allait bien, pourquoi en parler?
Comme vous dites, la Bosch, c'est très important pour les Aveyronnais et pour les ouvriers employés de cette usine, c'est la Bosch. C'était être la Bosch ou être un Bosch, c'était, et ça le reste, un signe de reconnaissance, en tout cas d'une dignité, une certaine aristocratie ouvrière. C'était un plaisir d'entrer dans les locaux, de voir les machines à l'action, de voir ces technologies de pointe, mais c'était aussi un plaisir d'aller voir les anciens ouvriers qui étaient sur le site depuis les années 1960, même si ça devient Bosch officiellement en 1970. Ouais. On n'oublie pas qu'à ce moment-là, on est simplement 25 ans après la Deuxième Guerre mondiale, et moi qui habite Saint-Radegonde, de la tranchée des fusillés où 30 résistants ont été fusillés, je vois l'usine Bosch et j'y vois le plus bel exemple de réconciliation franco-allemande. En tout cas, j'y voyais le plus bel exemple il y a encore quelques mois, avant cette décision qui fait de la peine à tout le monde, puisque comme vous l'avez dit, je suis enseignant, et dans chaque classe, on a 3-4 élèves dont un ou les deux parents travaillent dans cette belle usine en espérant qu'elle puisse continuer à prospérer sous une forme ou sous une autre.
Ouais, ça sera plutôt sous une autre. Parce que bon, les injecteurs au moteur diesel, là on est sur un plan de réduction de l'emploi de 500 emplois d'ici 2025. Exactement. Contre 1200 actuellement et encore, et un maximum qui est monté à plus de 2500 il y a quelques années.
Mais un tel outil et surtout une main d'œuvre si qualifiée tant de décennies, il y a certainement des solutions qui pourront être retrouvées si le groupe Bosch le décide.
On espère et on attend. Nous et les autorités françaises, le gouvernement, tout le monde attend un peu, cherche quelque chose, une solution. Voilà. Bref, donc ces ouvrages sont aussi disponibles, on doit pouvoir les retrouver en mettant votre nom, Pierre-Marie Terral, auteur. Terral, c'est T-E-2-R-A-L.
T-E-2-R-A-L, comme la terre, oui.
Tout à fait. Et Pierre-Marie, par ailleurs, vous êtes déjà sur la suite des événements.
Oui.
Concernant votre travail d'auteur.
Alors, avec mon ami Sébastien Verdier, dessinateur installé à Rodez, donc c'est le métier. Nous préparons une bande dessinée pour les éditions d'Argo sur les paysans du Larzac. Mais la valeur ajoutée, c'est que évidemment il y a les images et le trait de Sébastien permet de rentrer dans la complexité, mais surtout dans le caractère facétieux des paysans du Larzac, qui étaient à leur époque beaucoup aidés par Charlie Hebdo, le canard enchaîné. Donc on retrouve un peu cette veine-là avec à l'époque les BD reportage du regretté Cabu, victime, comme on le sait, des attentats. Donc, il y a aussi de cet esprit-là dans ce que fait Sébastien et dans ce qu'on a essayé de faire ensemble, mais ça sera que pour 2022, mais c'est vrai que c'est un très très beau projet.
Ouais, parce qu'en plus, mon Dargo, c'est un des grands éditeurs de bande dessinée française. Je sais plus si c'est Astérix, Lucky Luke ou tout. Ou Tintin, je sais plus.
C'est notamment Lucky Luke, oui.
Ouais, Lucky Luke, voilà. Donc, on est sur de la BD un peu humoristique comme celle que moi j'ai lue quand j'étais enfant, ou il y a aussi un côté. La BD, ça peut être super sérieux. Hein.
C'est de la BD historique,
ouais.
Mais une BD historique qui ne s'interdit pas quelques recours à la fiction, même si on a gardé une histoire, une trame qui est vraiment celle de l'histoire, et surtout qui ne s'interdit pas un recours à l'anecdote, puisque quand on lit une BD, c'est aussi parfois on a envie de se détendre un peu. Donc aborder à la fois le contexte politique d'une époque, mais aussi tout le décalage qu'il y a pu y avoir entre un paysan aveyronnais qui était sur sa ferme et qui parfois n'était sorti de ce département que pour aller au service militaire, voire à la guerre, et les jeunes 68 ans qui arrivent à ce moment-là dans notre département, voire même des jeunes maoïstes qui arrivent des grenades à la ceinture, ce qui est assez surprenant quand on n'est pas prévenu. Donc voilà, on est parti de ce point de départ et de cette rencontre.
Et dans cette bande dessinée, vous avez écrit quoi, le scénario, les bulles, enfin les textes?
Voilà, j'ai écrit le scénario, je vous rassure, je ne me suis pas risqué au dessin, ce qui aurait pu être périlleux.
Bon, Antoine, est-ce que tu as une dernière question? Mais c'est la dernière.
J'allais vous demander, par rapport à François Mitterrand, ce que vous admiriez le plus chez lui.
Je remercie Antoine pour cette question. En tout cas, ce qui m'a le plus touché, je dirais, c'est la fin de sa vie. Et c'est ce que j'appellerais sa tournée des adieux. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de raconter, c'est comment, quand il sait qu'il vit ses derniers mois, il va revenir dans tous les lieux qu'il a aimés, que ce soit en Charente, évidemment, que ce soit en Bourgogne, sur la Roche de Solutré, que ce soit dans les Landes. Et en faisant comprendre d'un regard parfois seulement aux personnes qu'il avait fréquentées, qu'il avait aimées, qu'il ne se reverrait probablement pas. Et même en en parlant encore, c'est vrai que c'est la période et des rares personnes qui ont commencé à lire cet ouvrage, cette fin de François Mitterrand et donc par conséquent la fin de cet ouvrage, c'est ce que j'ai pris le plus de soin peut-être à écrire, parce que là c'est vraiment au-delà d'essayer de rester un historien qui essaie d'être honnête intellectuellement. Là, on ne peut être que dans l'empathie envers un homme qui vit ses derniers mois et ses derniers jours, quelle qu'ait été sa vie, mais on reste au fond des humains.
Et c'est à retrouver donc dans François Mitterrand, un roman français signé Pierre-Marie Terral, notre invité aujourd'hui dans le MAG sur CFM Rodez. On rappelle ouvrage avec une préface de François Hollande et sous-titre de ce livre de 358 pages au prix de 21 € chez Mareuil Édition. C'est « Des allées du pouvoir ». Au chemin de traverse. Merci beaucoup Pierre-Marie Terral d'être venu dans nos studios. Bonne continuation, travaillez bien. Bon cours d'histoire parce que ça roule les lycées là.
Voilà, cette semaine à distance et début mai, enfin nous aurons le plaisir de nous retrouver avec les élèves au moins en partie.
Ah, vous n'allez pas les reconnaître. D'ailleurs, vous les connaissez à peine de tête. Du coup, non, mais c'est vrai.
Alors, je connais la partie supérieure de leur visage.
Ouais. Bon, merci beaucoup Pierre-Marie, merci Antoine pour ta participation.
Merci à toi David.